crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous les Burgiens. Aujourd'hui, une émission spéciale nucléaire. Entre Lyon et Bourg-en-Bresse, sur la commune de Saint-Vulbas, on trouve la deuxième centrale la plus vieille de France, la centrale du Bugey. En ce moment, c'est le Grand Carénage, un programme industriel qui vise à maintenir les centrales nucléaires dans la durée. De nombreux travaux sont entrepris. Pierre Boyer, le directeur de la centrale du Bugey, nous en parlera. Près de 2000 personnes y travaillent, elle a un rôle important pour le département de l'Ain. Son président, Jean de Guéry, s'est d'ailleurs montré favorable pour l'accueil de deux EPR, des réacteurs de troisième génération. Nous l'entendrons aussi. D'un autre côté, plusieurs acteurs s'opposent au maintien des centrales et celle du Bugey en particulier. C'est le cas de l'association Sortir du nucléaire Bugey. Elle milite pour une fermeture à court terme de la centrale. Et du côté des Suisses aussi, on est contre. Le canton et la ville de Genève sont représentés par l'avocate française Corinne Lepage, que nous avons eue par téléphone. Ils ont porté plainte contre la centrale.
Radio B.
Le nucléaire, c'est trois quarts de notre production énergétique en France. On est le deuxième pays au monde à produire autant d'énergie venant du nucléaire juste après les États-Unis. C'est une énergie donc très présente, mais aussi controversée. Le spectre de l'accident de la centrale de Fukushima est toujours bien présent, près de 10 ans plus tard. Avec Lorenzo, notre stagiaire de troisième, nous avons été au marché de Bourg la semaine dernière pour savoir ce que les habitants en pensent.
Le nucléaire, ça vous inspire quoi ?
En soi, c'est bien pratique parce que ça apporte plein d'énergie. Mais après, pour l'environnement, c'est vrai que c'est pas top.
Le nucléaire, on va dire, ça nous a servi un temps, mais je pense que maintenant, on a commencé à arriver à saturation.
Je pense que c'est dangereux pour l'humain.
C'est écologique, l'énergie nucléaire ?
Ah, peut-être pas tellement. Hein.
Non, pas. Je pense pas parce que je suis pas un grand spécialiste, mais avec tout ce qu'on entend à côté, la pollution que ça peut engendrer, les catastrophes que ça peut engendrer aussi, si c'est mal géré, si c'est mal entretenu. Il y a des vieilles centrales nucléaires aussi qui commencent un peu peut-être à avoir besoin d'être rénovées. Et est-ce qu'elles sont rénovées? Ça, on ne sait pas. Donc, il y a des catastrophes qui sont arrivées. Je pense qu'il faut en tirer des leçons. Enfin, il vaut mieux qu'on tire des conclusions de tout ça et pas attendre qu'il y en ait encore d'autres qui se déroulent avant de se dire « bon, on va peut-être changer nos habitudes ».
Non, pas du tout, non. Parce que ça pourrait être très dangereux si ça explose ou s'il y a des fuites, ou on a vu Fukushima ou alors Tchernobyl. Il y a des répercussions irréversibles sur la nature.
Non, pas trop. Je sais que c'est de la vapeur d'eau qui en sort, mais après, pour recycler tous les bâtons d'uranium, les trucs comme ça, c'est pas top. Enfin, ça se recycle pas.
Est-ce que vous êtes inquiet qu'il y ait une centrale qui soit très proche, comme la centrale du Bugey?
Ouais, ça me fait assez peur quand même. Ça me fait peur. Ouais. Si ça explose ou qu'il y ait des fuites, ça me paraît assez dangereux quand même. Ouais.
Ah non.
Non, pas plus que ça.
Je pense que EDF est un grand groupe et puis au niveau sécurité, je pense qu'ils sont au top. Après, le risque zéro n'existe pas, mais bon, vous avez plein d'autres choses où le risque zéro n'existe pas. Vous avez en ce moment le virus, donc non, ça ne m'inquiète pas du tout.
Bah, je pense qu'avec les normes de sécurité aujourd'hui, ça doit moins faire peur aujourd'hui qu'hier, parce qu'on entend quand même qu'il y a beaucoup de contrôles, sauf que on les voit pas faire, mais enfin, on suppose que c'est sérieux.
Moi, je suis sur Bourg que depuis un an, donc c'est vrai, je m'étais pas plus renseigné, je savais pas qu'il y en avait une aussi près que ça, donc on fait avec.
On l'a entendu, certains habitants sont plutôt sereins, habitués, et d'autres plus inquiets. Et certaines associations partagent aussi ces inquiétudes depuis que des accidents nucléaires graves ont eu lieu dans le monde. On pense à la centrale de Tchernobyl en Ukraine dans les années 80, ou encore Fukushima au Japon il y a moins de 10 ans. C'est d'ailleurs en 2011, juste après l'accident de la centrale japonaise due à un tsunami, que l'association Sortir du nucléaire Bugey est créée. Nous avons rencontré un de ses membres, Jean-Pierre Collet. Bonjour Jean-Pierre Collet.
Bonjour.
Vous faites partie de Sortir du nucléaire Bugey, une association pour la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey. Cette association, vous l'avez créée pour militer contre quoi plus précisément ?
Alors, Fukushima, évidemment, ça a eu une répercussion mondiale, mais nous, localement, on était très très inquiets par rapport à la problématique posée par la centrale nucléaire du Bugey, qui avait déjà fait parler d'elle. Il y a eu déjà des gros soucis sur la centrale, notamment en 1984. Peu de gens le savent, mais elle n'avait que 4 ou 5 ans d'existence, de fonctionnement, et déjà eu un problème de réchauffement de l'une des tranches au niveau du circuit primaire. Donc on était déjà, nous, très inquiets par rapport à cette centrale. Et puis, bien sûr, depuis, la centrale, elle a vieilli. Elle a connu un certain nombre de déboires. Et donc, nous, localement, on avait besoin de recréer une forme d'opposition par rapport à ce qui nous paraît être un danger pour la région Rhône-Alpes. Donc nous, l'association SDN Bugey, elle est là pour donner une autre information, elle est là pour dénoncer effectivement cette centrale qui est dangereuse, de plus en plus dangereuse, car vétuste. Et puis on est là pour effectivement parler aussi de l'ICEDA qui est une plateforme qui va bientôt entrer en fonctionnement pour gérer, on va dire entre guillemets, les déchets issus du démantèlement des vieux réacteurs.
Donc l'ICEDA, ça sera au Bugey.
Alors l'ICEDA, c'est quasiment terminé. En fait, c'est un chantier qui a duré plusieurs années. Nous, on a essayé effectivement de s'opposer à la mise en activité de cette plateforme. On a été débouté, mais on a quand même gagné quelques années. Là, c'est sur le site de la centrale, ICEDA. C'est vraiment tout près du Rhône. Donc c'est dans une zone qui pourrait être inondée. C'est à 40 mètres du Rhône. C'est derrière, si vous voulez, derrière Bugey 1, hein, le réacteur le plus âgé. Et donc là, vous avez deux grandes halles qui vont stocker, abriter en subsurface des milliers de tonnes de déchets nucléaires sous forme de colis qui seront acheminés à travers la France par convoi ferroviaire ou convoi routier.
Dans l'idéal, votre association, elle voudrait que toute la centrale du Bugey ferme ?
Nous, ce qu'on demande depuis des années, depuis la création, c'est la fermeture à court terme de la centrale, que nous jugeons effectivement extrêmement dangereuse à la fois pour les travailleurs du nucléaire et pour la population, parce que cette centrale, elle a passé le cap des 40 ans. Les réacteurs ont été mis en service en 78 et 79, donc elle a passé le cap des 40 ans. Là, on va rentrer dans la visite décennale de Bugey 2, Bugey 3. Et donc, l'idée, c'est de faire continuer cette centrale jusqu'à 2030 au minimum. Elle aura 50 ans. Et donc, c'est le vœu d'EDF. Alors, il y a un grand programme qu'on appelle le Grand Carénage, qui est un programme industriel très, très ambitieux, qui est très, très onéreux, puisqu'il y en a pour plus de 2 milliards d'euros, qui vise à remettre en état les réacteurs de manière à ce que, enfin, les réacteurs et toute l'infrastructure de la centrale, de manière à ce qu'effectivement, elle soit opérationnelle encore pendant 10 ans. Alors, tout ça est très bien, sauf que on sait qu'on ne peut pas tout changer dans une centrale, notamment la cuve, et que la cuve, c'est quand même l'organe essentiel où se passe la réaction nucléaire, et ça ne se change pas. Et donc, quand il y a des fissures et des problèmes sur la cuve, eh bien, on fait avec.
Donc, vous craignez pour la sécurité. Est-ce que vous vivez près de cette centrale ?
Oui, pas tout près, mais je suis désormais à la limite du nouveau PPI. Vous savez, le PPI, le plan particulier d'intervention, qui est passé donc de 10 à 20 km, donc cette fameuse zone dans laquelle on est censé avoir des pastilles d'iode, des comprimés d'iode, il faut dire, en cas d'accident majeur. Donc moi, je suis sur le secteur d'Ambérieu, donc vraiment à 20 km maintenant, à vol d'oiseau, ou à vol d'atome, je devrais dire.
Et vous doutez donc de cette sécurité dans la centrale du Bugey ?
Cette centrale, comme je le disais tout à l'heure, elle a passé les 40 ans. Il y a beaucoup de problèmes sur cette installation, à la fois en termes de fuites. Il y a des fuites régulièrement, notamment de tritium. Il y a des problèmes d'irrégularité en termes de malfaçon. C'est-à-dire que cette centrale, elle a été déjà mal conçue au départ. Alors on nous dit que bon, tout ça, c'est pas très grave. C'est que finalement, elle a quand même pu fonctionner pendant 40 ans. Mais ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que cette centrale fait partie du paysage depuis plusieurs décennies pour la plupart des gens. Et extérieurement, finalement, on ne voit pas grand-chose d'alarmant. Donc, on s'y est habitué. Bon, elle est là. Les gens l'ont toujours connue. Finalement, ça ne pose pas plus de problèmes que ça en extérieur parce que quand on écoute effectivement la communication officielle, tout va bien. Et puis, il y a quand même toujours le grand argument que ça crée quand même entre 1500 et 2000 emplois. Et ça, en termes économiques, c'est imparable, quoi. On nous dit toujours, oui, mais c'est quand même des emplois à la clé. Donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Nous, cet argument nous paraît quand même un petit peu léger et assez dangereux. Si effectivement il faut, pour justifier une centrale, toujours sortir l'argument de l'emploi, ça nous paraît même à la limite presque malhonnête.
Donc, comme vous l'avez dit, cette centrale, c'est environ 1600 agents EDF et prestataires permanents confondus. C'est aussi 40% de la consommation en énergie dans la région.
Oui.
Donc, la fermeture ne peut pas avoir lieu du jour au lendemain. Est-ce que votre association propose des solutions pour remplacer la production électrique de la centrale ?
Disons que pour répondre à cette question, il faut bien se mettre en tête qu'actuellement, on est en surcapacité de production d'électricité d'origine nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, on revend notre électricité. Alors, je ne dis pas que parfois on n'en importe pas, notamment dans les périodes de grand froid, mais en fait, globalement, dans l'année, on exporte, on revend. Et donc, en fait, on peut fermer des réacteurs. Et d'ailleurs, actuellement, pendant le fonctionnement dit normal des centrales nucléaires en France, il y a 58 réacteurs, il y en a toujours 10, 12, 15 qui sont à l'arrêt, soit pour des problèmes de maintenance, soit des problèmes de rechargement de combustible, soit des problèmes d'incident. Et d'ailleurs, à Bugey, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, donc de 2015 à 2017, le réacteur numéro 5 a été à l'arrêt quasiment pendant 2 ans. Là-dessus, on a rajouté l'arrêt de Bugey 3 pendant quelques mois, et on a même à un moment connu l'arrêt de Bugey 2. Donc pendant une période donnée, sur la centrale qui comporte 4 réacteurs en fonctionnement, il y en avait 3 qui ne fonctionnaient pas. Or, personne n'en a jamais rien su, personne n'a été plongé dans le noir, Lyon a toujours continué à fonctionner normalement. Je veux dire par là que l'expérience a montré qu'on pouvait se passer d'un certain nombre de réacteurs, dont ceux de Bugey, et que ça n'avait pas altéré la vie au quotidien de la plupart des gens, pas de tout le monde. Donc on pourrait, sans chercher des solutions de substitution, déjà arrêter des réacteurs. Alors nous, on milite pour l'arrêt de Bugey, donc on va dire qu'on va arrêter Bugey. Donc on sait bien qu'on ne va pas arrêter Bugey du jour au lendemain, mais on pourrait très bien programmer un arrêt à court terme. Nous, ce qu'on demande, c'est dans les 2 à 3 ans. Dans 2 ou 3 ans, on pense que la centrale du Bugey pourrait être arrêtée. Après, évidemment qu'on ne va pas arrêter toutes les centrales nucléaires en France. Nous, on est déjà pour arrêter les vieux réacteurs. Et puis parallèlement, on milite activement pour que le mix énergétique soit mis en place. C'est-à-dire qu'en France, on est encore en retard par rapport à tout ce qui est ENR. Et on n'a jamais dit qu'il fallait remplacer la centrale par autant d'éoliennes qu'il faudrait pour produire la même quantité, puisqu'effectivement, ça serait aberrant. Une éolienne, c'est en gros 1 mégawatt. Un réacteur, c'est 900 mégawatts. Donc, il faudrait 900 éoliennes. Tout ça, c'est délirant. Il ne s'agit pas de mettre en balance le nombre d'éoliennes puis la capacité d'un réacteur. Il faut bien sûr continuer le mix énergétique. Il faut peut-être revoir aussi notre façon de consommer. Mais encore une fois, on peut actuellement fermer des réacteurs sans que ça altère la consommation des citoyens.
Emmanuel Macron veut que seulement 50% de notre énergie provienne du nucléaire. Le gouvernement a dévoilé une liste de 14 réacteurs qui devraient disparaître d'ici 2035. Ça représente un quart d'entre eux. Une paire de réacteurs pourrait aussi disparaître de la centrale du Bugey. Elle est sur cette liste. C'est une bonne nouvelle pour vous ?
Annoncer la fermeture de réacteurs nucléaires pour des antinucléaires, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, c'est une relative bonne nouvelle. Disons que ça va dans le bon sens, mais c'est loin d'être suffisant. Puis c'est beaucoup trop tardif. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est une fermeture à court terme. Ce n'est pas une fermeture dans 8 ou 10 ans. Parce que là, finalement, là, ce qui est annoncé dans le programme de la PPE, c'est pour les années 2028 ou 2030. Donc c'est vraiment encore un horizon très lointain. Et puis, ça serait que 2 réacteurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt de la centrale dans 2 ou 3 ans. Ce n'est pas dans 10 ans, quoi. Après, oui, ça va dans le bon sens, mais c'est largement insuffisant.
Donc c'est trop sur le long terme pour vous.
Ah bah, c'est-à-dire que s'il faut qu'on croise les doigts pendant 10 ans parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, surtout sur ces 10 ans qui vont être encore les plus délicats, puisque plus ça va, plus cette centrale, elle est vétuste. Encore une fois, comme je l'ai dit en début d'entretien, une centrale peut très bien avoir de gros pépins en début de fonctionnement, puisqu'en 1984, elle n'avait que 5 ans. Mais malgré tout, on sait très bien qu'une installation, une usine, elle a un début, une fin. Et c'est comme une voiture. Il y a un moment, vous avez beau réparer votre voiture, vous devez arrêter, quoi. Là, c'est une vieille centrale. Il convient de l'arrêter avant l'accident majeur.
Donc là, on a de ce côté le gouvernement qui veut réduire la part du nucléaire. Mais d'un autre côté, avant Noël, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et le département de l'Ain ont émis un avis positif sur la potentielle installation de 2 EPR, aussi appelés réacteurs de 3e génération. Comment vous avez reçu cette annonce dans votre association ?
Alors nous, ça nous a beaucoup choqués parce qu'on s'est posé la question de savoir quelle était la légitimité de ces 2 assemblées pour pouvoir prétendre à engager l'avenir de millions de personnes sur les 50 ans à venir. Alors même s'ils n'ont pas un pouvoir décisionnel, mais ils font vœu de candidature. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment démocratique? Est-ce que c'est vraiment dans les attributions du conseil départemental de l'Ain ou des élus de la communauté de communes de la plaine de l'Ain de vouloir des nouveaux réacteurs? Je veux dire, on n'est pas là sur la construction d'un collège, sur l'aménagement d'une autoroute. Enfin voilà, est-ce que ça ne dépasse pas largement le cadre de leur attribution? Et accessoirement, est-ce que ça ne devrait pas être fait autrement du point de vue démocratique? Donc nous, ça nous a posé un vrai problème de démocratie. Donc voilà, après, on a réagi publiquement, on a fait un communiqué de presse et puis nous sommes allés carrément, lors d'une session de l'Assemblée de la communauté de communes, nous sommes allés dire carrément aux élus ce que nous pensions et donc nous avons fait une lettre ouverte.
Merci Jean-Pierre Collet d'être venu. Vous êtes membre de l'association Sortir du nucléaire Bugé.
Merci à vous.
L'association Sortir du nucléaire Bugé sera en audience au tribunal de police de Bourg-en-Bresse le 28 février à 8h30. L'association avait porté plainte contre la centrale du Bugé pour une fuite de tritium, un composé radioactif, en 2017. La centrale du Bugé inquiète même à l'étranger, 100 km plus haut en Suisse. Le canton et la ville de Genève, représentés par Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, ont déposé plainte contre X, contre cette centrale à deux reprises. Nous avons contacté Corinne Lepage par téléphone pour comprendre ces plaintes. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement sous la présidence de Jacques Chirac et avocate au cabinet Huglot-Lepage, un cabinet spécialisé dans le droit de l'environnement. Et depuis 2016, vous représentez le canton et la ville de Genève contre la centrale du Bugé. Alors pourquoi la Suisse souhaite obtenir la fermeture de ce site?
Tout simplement parce que la Suisse est extrêmement inquiète des risques que la centrale du Bugé, qui est une vieille centrale, court et donc fait courir au voisinage. Étant entendu qu'en matière nucléaire, le voisinage, ce n'est pas les 2 km autour, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et la ville de Genève n'est qu'à 80 km à vol d'oiseau de la centrale du Bugé. Donc évidemment, s'il y avait, ce que personne ne souhaite évidemment, un gros problème au Bugé, la ville de Genève serait concernée, le canton de Genève aussi, puisque ce sont les deux qui sont dans la procédure.
Vous doutez de la sécurité de cette centrale ?
Absolument. Nous avons fait faire une expertise par un expert indépendant qui est tout à fait connu, qui est Yves Marignac, qui dirige l'agence WISE, nous a fait une analyse extrêmement précise et fine des risques que cette centrale courait, à la fois de risques liés à son emplacement, à la fragilité du barrage de Vouglan, toute une série de considérations liées au choix qui a été fait de ce site, mais aussi au vieillissement de l'installation et au fait que c'est une des centrales les plus à risque de France. Ce qui est normal puisque c'est une très vieille centrale.
Vous avez porté plainte contre X au tribunal de grande instance de Paris en 2016, une plainte classée sans suite en 2017, et vous portez plainte à nouveau en décembre 2018. Alors pourquoi avoir choisi la plainte contre X pour attaquer en justice la centrale du Bugé?
Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. À partir du moment où la plainte simple n'a pas débouché, nous n'avons pas d'autre solution que de déposer une plainte avec constitution de partie civile, que du reste, le parquet français essaye de faire classer dès le départ, parce qu'évidemment, ça les gêne énormément. Et donc, cette plainte a été déposée en mars. Du fait des mouvements de magistrats, puisque le doyen des juges d'instruction était parti à la retraite, M. Van Ruymbeck, un nouveau juge d'instruction n'a pas pu être désigné avant l'été. Et ensuite, le parquet a essayé de s'opposer par un réquisitoire aux fins de non informer à ce que l'action soit reçue. Donc pour le moment, au bout d'un an, c'est quand même un cas rarissime, qui montre le mauvais vouloir de la justice française, cette plainte n'est toujours pas traitée.
Donc est-ce qu'il y a un peu un conflit d'intérêts, vu que c'est la justice française qui doit gérer et décider?
Si vous voulez, il ne faut pas oublier que chez nous, malheureusement, le parquet est dépendant de la chancellerie. Et que, par voie de conséquence, il reçoit des instructions, même si officiellement il n'y a pas d'instructions pour les affaires particulières. Disons que la question nucléaire est une affaire plus que particulière, et en conséquence, je suis à peu près convaincue qu'il y a bien des instructions de la chancellerie sur ce dossier, même si je ne peux pas en apporter la preuve.
Donc à l'échelle française, vous pensez que vous avez assez peu de possibilités d'empêcher cette centrale?
Ah non, je ne dis pas cela du tout. Non, moi je suis quelqu'un de tenace. Hein. Ça mettra le temps que ça mettra, mais on va aboutir. On va aboutir parce que c'est la loi, c'est tout simplement. Et que le nucléaire en France n'est pas au-dessus des lois, c'est tout.
Et est-ce qu'il y a une autre échelle possible au niveau de la justice européenne peut-être?
Alors oui, nous avons également la justice européenne est saisie de la question du maintien des centrales nucléaires de manière indéfinie, comme on est en train de le faire en France, et des conditions dans lesquelles la directive sur la sûreté nucléaire est appliquée en France. Pour l'instant, le dossier est instruit, il n'y a pas de position qui a encore été prise par la Commission sur ce sujet.
Donc la première plainte, elle a été classée sans suite donc par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, qui a considéré que les faits étaient insuffisamment caractérisés. Est-ce que vous trouvez ça valable comme raison?
Non, pas du tout. L'instruction a visé à demander à l'autorité de sûreté nucléaire ce qu'elle en pensait, comme elle n'avait pas jugé utile d'intervenir à l'époque. Et c'était l'ancienne, c'était sous la présidence de M. Chevet, c'est pas la nouvelle... ASN qui est beaucoup plus rigoureuse que la précédente, évidemment, si vous demandez à une partie de dire qu'elle a mal agi, elle ne va jamais vous le dire. Donc l'instruction, elle n'est pas allée au-delà de ça. Donc ce n'est pas très sérieux et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, et c'est ce qui explique le temps qu'on a mis entre le moment où on a reçu cet avis de classement sans suite et la plainte avec constitution de partie civile, de faire une expertise indépendante pour voir si effectivement il y avait lieu ou pas à déposer une plainte. Et le constat est sans appel.
Donc si cette nouvelle plainte que vous avez déposée fin 2018 avec la ville et le canton de Genève n'aboutit pas, comment allez-vous faire?
J'espère bien qu'elle va aboutir. Et puis si jamais il y avait un refus d'instruction, on irait à l'appel, on irait devant la chambre d'instruction. Je ne pense pas qu'ils oseront. Enfin, en matière nucléaire en France, tout est toujours possible.
Et donc si la plainte aboutit, qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, il y a un juge d'instruction qui est nommé et il y a une vraie instruction qui se met en route, qui va me prendre du temps, parce que malheureusement, la justice française est très mal lotie en termes de moyens. Nous avons une des justices les plus pauvres d'Europe. Donc ça prend beaucoup de temps, mais nous avons de très bons magistrats et je pense que cette affaire sera instruite comme elle doit l'être.
Donc fin décembre, le département de l'Ain a fait savoir qu'il était candidat pour accueillir deux potentiels EPR, des réacteurs de troisième génération. Donc ça, c'était une mauvaise nouvelle pour le canton et la ville de Genève.
Bien sûr.
Est-ce qu'ils vous ont recontacté à ce moment-là
bien
pour
sûr,
les représenter?
Absolument. Mais pour le moment, il n'y a pas énormément de choses à faire puisque c'est simplement une candidature, hein, c'est tout. Ensuite, on va voir comment les choses évoluent. Mais enfin, vous savez, vu l'énorme succès de l'EPR de Flamanville, qui aujourd'hui est à 12 milliards d'euros et ouvrira peut-être en 2024, je ne suis pas tout à fait certaine qu'on reparte sur de nouveaux EPR, même si on a un gouvernement extrêmement proactif en faveur du nucléaire, sans oublier que notre Premier ministre a été directeur des relations publiques d'Areva pendant un certain nombre d'années.
Et donc, est-ce que vous avez d'autres outils à part la plainte contre ces
Écoutez,
deux potentiels
oui,
EPR?
Oui, j'ai beaucoup d'idées et très franchement, j'espère bien que nous pourrons faire quelque chose de solide.
Merci Corinne Lepage. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous représentez le canton et la ville de Genève contre la centrale du Bugey.
Radio B. Radio B.
La centrale du Bugey, c'est aussi près de 2000 emplois et 40% de la consommation en électricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean de Guéry, président du département de l'Ain, veut conserver son dynamisme sur le territoire. Il s'est même montré favorable à l'accueil de réacteurs EPR, des réacteurs de troisième génération. Son avis n'a qu'un impact symbolique. Il nous explique sa position.
Le but, c'est de pérenniser tout simplement une filière. Et c'est ce qu'on permet de faire avec le choix d'EDF d'implanter de nouveaux réacteurs sur ce site, soit en Bugey, soit à Tricastin. Et donc, nous, comme les autres départements se prononcent également, que ce soit en Haute-Normandie ou dans les Hauts-de-France, eh bien, nous nous prononçons aussi favorablement à la poursuite de l'activité nucléaire dans l'Ain.
Donc pourquoi c'est important de continuer dans le secteur nucléaire ?
Cela permet à 2000 emplois d'être conservés, ce n'est pas neutre dans le département. Actuellement, avec l'opération Grand Carénage, c'est près de 4000 emplois qui sont sur le site de Bugey, donc ce n'est pas du tout neutre au niveau économie et bien sûr au niveau emploi. Le fait de passer avec des EPR nouvelle génération permet de sécuriser le site et la population. Nous sommes bien d'accord aussi, puisque ces nouveaux EPR ont l'agrément de la Sûreté nucléaire mondiale pour être installés. Et véritablement, c'est un plus pour la population indinoise. Et puis, je le dis, il y a une contribution à cette entreprise sur la fiscalité locale, bien entendu. C'est plusieurs millions d'euros qui sont en jeu aussi pour le secteur. C'est important. Et puis, nous rentrons simplement dans le schéma que veut le gouvernement, c'est-à-dire une production d'électricité totalement décarbonée d'ici 2035, avec un mix à la fois 50% nucléaire et 50% énergie renouvelable. Donc nous sommes dans la parfaite lignée de ce que demande le gouvernement, bien entendu. C'est aussi continuer de permettre à la France son indépendance énergétique, qui est très importante. Et puis il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui permet également de produire l'électricité au moindre coût. Aujourd'hui, si on revient comme l'Allemagne avec les énergies fossiles, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus polluant, bien entendu. Si on fait que de l'énergie renouvelable, c'est beaucoup plus cher également. Donc le nucléaire a prouvé jusqu'à maintenant en France et notamment à Bugey qu'il était possible de travailler sans insécurité et puis surtout à un prix tout à fait raisonnable de l'électricité. Et je pense que c'est ce qu'attendent aussi les habitants du département de l'Ain.
Comme vous l'avez dit, vous vous êtes prononcé pour accueillir deux réacteurs EPR donc à la centrale du Bugey. Mais d'un autre côté, le gouvernement veut aussi en fermer potentiellement à la centrale du Bugey. Est-ce que ces deux réacteurs qui vont fermer peut-être à la centrale, c'est une grosse perte pour le département ?
Ça ne sera pas une grosse perte si derrière ils sont remplacés par des EPR nouvelle génération. Et avant qu'ils ferment, il y a à peu près encore 10 ans. Donc aujourd'hui, comme vous le soulignez, c'est bien le gouvernement qui prendra la décision, ce n'est pas le département de l'Ain, hein, ni les communes concernées. Simplement, nous émettons un avis, comme quoi nous soutenons les communes concernées, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, à pérenniser ce site, cette filière industrielle de pointe, comme les départements que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit en Haute-Normandie ou dans le nord de la France, le font également pour maintenir leur site et accueillir des EPR nouvelle génération. Donc c'est ni plus ni moins un soutien, mais un soutien raisonné, je pense. Ce n'est pas l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire, c'est la continuité d'une filière existante, tout simplement.
Donc une centrale nucléaire dans le département, ça fait peur un peu aux gens. Vous ne craignez pas pour la sécurité du département si un accident nucléaire arrivait ?
Écoutez, ça fait 40 ans que cette centrale est implantée ici. Dieu merci, il ne s'est pas passé d'incident notoire ou grave envers la population. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération de PR, ce sont des réacteurs qui sont encore plus sécurisés, hein, bien sûr, qui ont l'agrément mondial de la sûreté nucléaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce que l'on veut aussi. Est-ce qu'on tient à lutter toujours contre le nucléaire ? Mais qu'est-ce qu'on fait des 2 ou 3 000 emplois qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on fait du prix de l'électricité ? Ce sont des vrais choix. Moi, je pense que si demain, le prix de l'électricité est multiplié par 5 ou par 10, je ne pense pas que les gens acceptent beaucoup. Donc il faut arrêter souvent avec ces fausses idées sur le nucléaire. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé de comparable pour moins polluer la planète, c'est l'énergie complètement décarbonée, et pour l'instant, elle reste la meilleure marché pour produire de l'électricité.
C'était Jean de Guéry, président du département de l'Ain. Du côté d'EDF, qui gère la centrale du Bugey, on essaye d'informer les habitants via le site internet ou le point d'accueil accessible à tous. L'entreprise communique aussi via les médias pour rassurer. Nous avons ainsi assisté à une visite presse de la centrale en plein travaux de maintenance pour la visite décennale qui a lieu tous les 10 ans. Elle a commencé fin janvier pour le réacteur 2. Ce sera ensuite le tour des 3 autres réacteurs qui seront vérifiés chacun leur tour jusqu'en 2023. Nous avons eu l'occasion de parler à Pierre Boyer, le directeur de la centrale, au sujet de la sûreté, notamment si le barrage de Vouglan, à 70 km de la centrale dans le Jura, venait à rompre.
La sûreté, c'est surtout un élément qui est pris en compte à tous les stades de la vie d'une centrale nucléaire, donc depuis la conception jusqu'au démantèlement. Et donc à la conception, on a imaginé l'ensemble des événements qui pouvaient affecter la centrale, Et pour le domaine de l'inondation, l'élément, l'accident de référence qui a été pris en compte, c'est effectivement un effacement qui est techniquement impossible du barrage, mais ça a quand même été pris en compte parce que notre ADN, c'est de prendre en compte même ce qui est impensable. Donc c'est l'effacement du barrage de Vouglans. Mais pas seulement, c'est l'effacement du barrage de Vouglans avec une crue historique sur l'Ain et une crue centennale sur le Rhône, donc déjà avec des niveaux d'eau qui sont très élevés. Et le barrage de Vouglans est situé sur l'Ain et la confluence de l'Ain et du Rhône est en aval du site. Et donc, dans les hypothèses qui ont été retenues, ce n'est pas une vague qui passe devant le site, c'est l'eau du Rhône qui ne parvient pas à s'écouler parce que l'Ain serait assez élevé. Donc, c'est une montée du niveau des eaux. Et c'est ce qui a été retenu comme hypothèse de conception pour toutes les protections volumétriques, c'est-à-dire protection contre inondation du site. Donc, on a des mouvements de terrain qui sont naturels, qui nous protègent. Et quand on n'avait pas ces mouvements de terrain naturels, on a mis des remblais ou des digues qui nous permettent de nous prémunir de cette montée des eaux dans l'hypothèse totalement improbable où on aurait l'effacement du barrage avec encore une fois une crue centennale sur l'Ain, une crue historique sur l'Ain et une crue centennale sur le Rhône.
Pendant cette visite, nous avons vu des techniciens réparer des turbines dans la salle des machines, mais aussi des ingénieurs de Framatome, une filiale d'EDF spécialisée dans les matériaux de construction pour le nucléaire. Ils étaient en train de contrôler une machine à distance pour explorer la cuve du réacteur et vérifier l'absence de défauts et de fissures. La cuve est particulièrement importante. Elle renferme le circuit primaire qui est en contact avec les éléments radioactifs. Vérifier son état est donc primordial et la cuve est l'enceinte de confinement sont les deux seuls éléments que l'on ne peut pas remplacer.
Donc vous avez dit qu'il y avait deux parties qui ne pouvaient pas être changées sur cette centrale, donc la cuve et l'enceinte de confinement. Si on découvre qu'il y a un problème sur un de ces deux éléments, qu'est-ce qui se passe ?
Alors d'abord, on fait des contrôles tous les 10 ans lors de nos visites décennales. La visite décennale du réacteur numéro 2 qui a commencé il y a 3 semaines. Donc pendant ces visites décennales, on fait un contrôle complet de la cuve. Donc, c'est quoi un contrôle complet ? C'est une radiographie centimètre carré par centimètre carré de la cuve pour vérifier qu'elle a encore les bonnes caractéristiques métallurgiques pour pouvoir être exploitée pendant 10 ans. Et donc on fait ce contrôle de 10 ans, mais on a aussi des contrôles intermédiaires qui sont faits avec des éprouvettes, c'est-à-dire des morceaux de cuve témoins qui sont analysés régulièrement pour vérifier le bon comportement de la cuve. Et donc on a évidemment des bons indices qui vont être confirmés par l'inspection qui va se terminer le 15 février sur le réacteur numéro 2, que la cuve va pouvoir être exploitée en toute sûreté pendant 10 années qui viennent. Ensuite, le deuxième test, c'est sur l'enceinte de confinement, où tous les 10 ans, donc pendant les visites décennales, on fait aussi un test en pressurisant cette enceinte à 5 bars, en vérifiant que les critères d'étanchéité sont dans les critères acceptables et acceptés pour pouvoir être exploités pendant 10 ans. Et donc là aussi, c'est des analyses de tendance qu'on fait, donc on a une bonne prédictibilité des résultats. Et pour répondre concrètement à votre question, si on n'a pas atteint les critères, eh ben on ne redémarrera pas le réacteur, donc on n'aura pas procédé à la réfection de l'enceinte si l'enceinte n'avait pas les bonnes caractéristiques. Mais encore une fois, ces tests-là sont des tests réguliers qu'on fait sur le parc français tous les 10 ans. Et on a une bonne prédictivité des résultats, donc il n'y a pas de préoccupation particulière sur ces deux éléments-là.
Donc pour réexpliquer un peu, une centrale, c'était censé durer 40 ans, la vôtre. Là, on peut prolonger sa vie. Comment ça marche ?
Alors, une centrale, elle est dans la réglementation française, elle a une autorisation de fonctionner pour 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on procède à des améliorations de sûreté, des modifications de matériel, et l'autorité de sûreté, sur la base de ces modifications et des éléments qu'on lui apporte, que ça améliore significativement le niveau de sûreté de l'installation, nous donne une autorisation de fonctionner pour 10 ans supplémentaires. Et donc là, on arrive. Donc on n'a jamais eu, comme c'est le cas à l'étranger, de licence d'exploitation pour 40 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, il faut qu'on améliore notre installation pour obtenir l'autorisation de l'ASN pour fonctionner 10 ans supplémentaires. Donc là, les quatrièmes visites décennales, c'est un rendez-vous important, mais comme toutes les visites décennales, au cours desquelles on va apporter des améliorations de sûreté. Et qu'on va présenter. Alors c'est un programme qu'on a validé avec l'autorité de sûreté au préalable. Et une fois qu'on aura mis en œuvre ces modifications, on va présenter notre dossier à l'autorité de sûreté qui nous donnera l'autorisation pour fonctionner 10 ans supplémentaires.
Depuis 2011, à la suite de l'accident de la centrale de Fukushima au Japon, EDF a créé un plan d'action. Parmi elles, la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire.
Quand l'accident de Fukushima est arrivé, notre responsabilité d'exploitant, évidemment, c'est de comprendre très vite ce qui s'était passé et de mettre en place des mesures pour tirer des enseignements de ce qui s'était passé. Et la première mesure organisationnelle qui a été prise, c'était pour tenir compte du retour d'expérience de Fukushima. Parce qu'à Fukushima, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué de l'eau, de l'air, de l'électricité. Donc paradoxalement, de l'eau, il en a manqué pour refroidir le réacteur, avec de l'électricité pour faire fonctionner des pompes, pour faire circuler cette eau, et de l'air comprimé pour pouvoir manœuvrer les organes, les vannes qui permettent d'orienter l'eau dans les bonnes tuyauteries. Et donc très vite, EDF a proposé à l'autorité de sûreté cette disposition organisationnelle avec la création de 4 services FARN, donc Force d'Action Rapide du Nucléaire. Et on a la chance d'avoir un de ces services régionaux à Bugey. C'est 70 personnes qui sont capables de se projeter en n'importe quel point du territoire, quelles que soient les conditions climatiques, en moins de 12 heures, d'être opérationnel en moins de 24 heures. Opérationnel, c'est quoi? C'est être capable d'amener aux centrales qui seraient frappées par ces événements climatiques majeurs des moyens de pompage d'eau, des moyens de production d'électricité autonome et des moyens de compression d'air pour apporter de l'air comprimé et pour pouvoir faire face à des situations climatiques extrêmes. C'est ça la sûreté nucléaire au quotidien, c'est en permanence améliorer la sûreté en tenant compte de l'expérience passée.
C'est ça, existe depuis combien de temps?
Alors la FARN a été mise en place un an après l'accident de Fukushima, donc dans les années 2012-2013.
Et on a déjà eu recours à leur service en France?
Alors en France, non, parce que c'est une force de projection. En France métropolitaine, non, parce que c'est une force de projection qui doit permettre d'aider une centrale qui serait en difficulté par événement climatique majeur, ce qui n'est pas arrivé. En revanche, la capacité opérationnelle de la FARN a été démontrée lorsqu'elle est intervenue dans l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma, où les services ont été projetés pour participer à la reconstruction du réseau dans l'île de Saint-Martin. Et donc ça a démontré l'efficacité des procédures opérationnelles mises en œuvre à ce moment-là.
Dans ce plan d'action post-Fukushima, il y a aussi le DUS, le diesel d'ultime secours, que nous avons visité. Il permet d'alimenter un réacteur s'il subit une coupure d'électricité et ainsi refroidir son cœur. Il y en a 4 en tout, un par réacteur, et ils sont en fonction depuis fin novembre. Il est composé d'un moteur digne d'un paquebot et enfermé dans un bâtiment qui doit résister aux aléas climatiques. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Radio B pour retrouver les photos de notre visite.
Radio B, Radio B.
De son côté, le gouvernement d'Emmanuel Macron est plutôt favorable au nucléaire, même s'il souhaite réduire sa part. Fin janvier, il a dévoilé sa nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Dedans, on trouve les objectifs de l'État pour l'énergie en France, notamment réduire la part du nucléaire dans la production d'énergie. Elle doit passer de presque 75% aujourd'hui à 50% seulement d'ici 2035 et plus 2025 comme c'était prévu. Pour cela, il faut développer les énergies renouvelables et fermer des réacteurs, 14 en tout. La centrale du Bugey pourrait donc être concernée. En attendant, la visite décennale se poursuit pour décider si oui ou non les réacteurs sont aptes à être exploités pour 10 nouvelles années. C'est la fin de cette émission spéciale nucléaire. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Thomas Couty à la régie. Et demain matin, c'est l'info qui continue avec Camille et sa matinale. Bonne écoute sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.